Voilà. Donc, jeudi 12 février 2026. Donc, vous avez le matériel nécessaire, le plan, les textes de Spinoza, et puis aussi le chapitre 2, chapitre 3 de la Genèse. Voilà. Alors, donc, c'est notre sixième séance consacrée à la lecture du traité théologico-politique de Spinoza. Elle concerne le chapitre 4 qui a pour objet la loi divine. Alors il peut paraître saugrenu d'avoir lu avant lui le chapitre 6 consacré au miracle, comme nous l'avons fait la dernière fois, mais comme je vous l'avais dit, ce choix m'est apparu opportun étant donné la densité du chapitre 4. Et même si, pour expliquer le chapitre 6, il a fallu s'appuyer sur une démonstration faite au chapitre 4. Alors, sans aucun doute, le chapitre 4 est le chapitre le plus philosophique du traité de Spinoza. C'est celui qui nous fait entrer, en quelque sorte, dans le cœur de la philosophie de Spinoza, et qui se rapproche le plus de son éthique, de son ouvrage principal, qui est l'éthique. Notre lecture du chapitre 6 aura au moins l'avantage de nous préparer à celle du chapitre 4, dont nous ne pourrons pas prétendre épuiser la richesse. Je serai obligé de laisser une petite partie de ce chapitre. Mais l'essentiel est d'en montrer la démarche. Dans le chapitre 6, souvenez-vous, Spinoza se confronte à l'image populaire d'un dieu qui, en produisant des miracles, est capable de s'écarter des lois de la nature qu'il a établies pour en interrompre le cours. Il s'agira maintenant, par la lecture du chapitre 4, d'interroger plus directement la figure du Dieu législateur, qui est celle des religions révélées. Alors, par loi divine, les religions révélées entendent la loi prescrite par la volonté de Dieu, qui est révélée aux hommes par l'intermédiaire des prophètes. Or, pour Spinoza, comme on va le voir, il s'agit là d'une représentation imaginaire fondée sur l'ignorance, par laquelle les hommes projettent sur Dieu la représentation qu'ils se font d'eux-mêmes en s'imaginant dotés d'un pouvoir absolu de décision qu'ils appellent leur volonté ou leur libre arbitre. Et par laquelle aussi, ils projettent sur la loi divine la représentation qu'ils se font des lois qu'ils établissent pour régler la vie en société, c'est-à-dire les lois humaines. Et c'est ainsi que la loi divine leur apparaît comme un commandement prescrit aux hommes par la volonté divine. Alors l'objectif du chapitre 4 sera ainsi de montrer, au rebours de cette représentation, que la loi divine n'est pas un commandement qui s'impose de l'extérieur aux hommes, mais une vérité éternelle et nécessaire, que l'on peut connaître par la raison. Et Spinoza dit très souvent la lumière naturelle, mais la lumière naturelle, c'est la raison. En développant la puissance de son entendement, c'est-à-dire la puissance, sa puissance de comprendre. Et pour ce faire, eh bien Spinoza va procéder par une série de distinctions. Il commence par établir dans un premier temps ce qu'est une loi, et il distingue ainsi le véritable sens du mot, qui exprime une nécessité, de son sens commun, qui est celui de commandement. Et c'est ce sens commun qui conduit à imaginer Dieu comme un législateur et sa loi comme un commandement. Cette analyse permet ensuite de distinguer la loi divine et la loi humaine, par leur objet respectif. La loi divine explique Spinoza, a pour objet le souverain bien, c'est-à-dire la vraie connaissance et l'amour de Dieu. Évidemment, on expliquera ce point. C'est une loi qui se connaît par la raison, par la lumière naturelle, à partir de la seule considération de la nature humaine. Et puis la loi humaine, quant à elle, elle a pour objet, je cite, « la sécurité de la vie et de l'État ». Alors, troisième étape de la loi divine, qu'il faut rigoureusement appeler la loi divine naturelle, puisqu'elle est connue par la lumière naturelle à partir de la considération de la nature humaine, eh bien, de la loi divine naturelle, il faut distinguer la loi divine révélée, comme par exemple la loi de Moïse, qu'on peut appeler divine en ce qu'elle est instituée par révélation. C'est-à-dire que le prophète Moïse applique aux Hébreux les lois, la loi qui lui est révélée par Dieu dans ses prophéties. Et après cette analyse et ces distinctions, eh bien, il restera à examiner quatre questions. Les deux premières sont traitées dans le chapitre 4, les deux dernières dans le chapitre 5. Alors, les deux dernières, on ne les traitera pas. Il s'agit des questions qui sont consacrées aux cérémonies religieuses et aux rites sacrés. Et pardon, aux récits sacrés. Aux récits sacrés qui se trouvent dans la Bible. Donc, nous ne traiterons que des deux premières questions qui se trouvent dans le chapitre 4. Alors, première question, est-ce que par la lumière naturelle, c'est-à-dire par la raison, nous pouvons concevoir Dieu comme un législateur ou un prince prescrivant des lois aux hommes? Est-ce que c'est concevable par la raison? À cette occasion, nous verrons comment Spinoza s'inscrit en faux contre la lecture traditionnelle des chapitres 2 et 3 de la Genèse, qui présente Adam, le premier homme, comme un pécheur qui a désobéi à la loi divine. Deuxième question, on traitera à peine, que nous enseigne l'Écriture, la Bible, au sujet de la lumière naturelle, c'est-à-dire au sujet de la raison, et de la loi divine naturelle. En d'autres termes, l'enseignement de l'Écriture diffère-t-il de la raison, de ce que la raison nous enseigne? Donc voilà, disons, le plan du chapitre. Alors, d'abord, que faut-il entendre par le terme de loi? Eh bien, comme le montre Spinoza, il importe d'abord de bien distinguer le sens du mot pris absolument, c'est l'expression qu'il utilise, du sens du mot tel qu'il est entendu communément. Et communément, comme l'indique le début du second paragraphe, première page, communément, l'on n'entend pas par loi autre chose qu'un commandement que les hommes peuvent également exécuter ou négliger. Voilà ce que dit donc Spinoza au départ, hein, deuxième paragraphe de la première page. Alors, cette distinction est fondamentale, puisqu'elle commande la lecture du chapitre. Pris absolument, le terme de loi exprime des rapports de nécessité. Rapports de nécessité qui constituent la réalité des choses, à quelque niveau que ce soit. Et je cite Spinoza, ligne 1 à 4, le mot de loi, pris absolument, s'applique toutes les fois que les individus pris un à un, qu'il s'agisse de la totalité des êtres ou de quelques-uns de même espèce, se conforment à une seule et même règle d'action bien déterminée. Autrement dit, tous les êtres, toutes les choses, quelles qu'elles soient, sont déterminées à exister et à agir en vertu des lois qui, d'une part, constituent leur nature et qui, d'autre part, régissent les rapports qu'elles ont avec les autres choses. Alors, dans le premier cas, une loi exprime la nécessité interne qui constitue la nature d'une chose, et par là, elle désigne une règle d'action bien déterminée qui résulte nécessairement de la nature de cette chose. Prenons des exemples. Les poissons sont déterminés à nager. Les oiseaux sont déterminés à voler. C'est aussi simple que ça. Et l'exemple ici que donne Spinoza, qui se trouve plus loin, et qui concerne les hommes, c'est celui d'une loi psychologique qui résulte nécessairement de la nature humaine. Je cite ligne 16, qu'un homme, quand il se rappelle une chose, s'en rappelle aussitôt une autre semblable, ou qu'il avait perçu en même temps que la première, c'est une loi qui suit nécessairement de la nature humaine. Voilà comment fonctionne en quelque sorte la mémoire. Et dans le deuxième cas, celui où les questions des rapports qui existent entre les choses, eh bien, Spinoza cite une loi qui concerne justement la rencontre entre plusieurs corps. Et ces rapports, eh bien, sont eux aussi régis par la nécessité. C'est l'exemple de la loi physique qui est citée par Spinoza, lignes 12 à 16. Tous les corps, quand ils viennent à en rencontrer d'autres plus petits, perdent de leur mouvement autant qu'ils en communiquent. C'est une loi de physique. Et c'est là, comme le dit Spinoza, c'est là une loi universelle de tous les corps qui suit d'une nécessité de nature. Alors, mesurons bien ici ce que veut dire le terme de nécessité. Est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Ce qui ne peut pas être autrement qu'il n'est, par opposition à ce qui est contingent. Ce qui est contingent, c'est ce qui peut ne pas être ou ce qui peut être autrement. Ainsi, en ce qu'elle exprime un rapport de nécessité, une loi de nature ne peut pas être transgressée. Les êtres qui y sont soumis ne peuvent pas exister et agir autrement qu'en la suivant. Une loi de nature, ce n'est pas une obligation dictée par l'autorité d'un commandement à laquelle on peut se soustraire, que l'on peut décider d'exécuter ou de négliger. Donc c'est clair, ça c'est très important de bien avoir ça en tête. Alors ici, il peut paraître curieux que dans le même paragraphe, le premier paragraphe, où il énonce le caractère de nécessité des lois, Spinoza mette à part les lois d'origine humaine. Puisqu'on lit en effet, regardez ligne 6, une loi dépend d'une nécessité de nature quand elle suit nécessairement de la nature même ou de la définition d'un objet. Puis ensuite, il écrit, elle dépend d'une décision prise par les hommes, et alors elle s'appelle plus justement une règle de droit, quand pour rendre la vie plus sûre et plus commode, ou pour d'autres causes, des hommes se la prescrivent et la prescrivent à d'autres. Fin de citation. Alors ici, une lecture superficielle du texte pourrait laisser penser que par les décisions qu'ils prennent d'établir des lois destinées à rendre la vie plus sûre et plus commode, en société, eh bien les hommes manifestent au fond un pouvoir absolu de décision, un libre arbitre, qui leur permet d'échapper à la nécessité des lois qui régissent les êtres naturels. On pourrait l'entendre comme ça. Mais, évidemment, Spinoza ne s'exprime pas en ce sens, ou alors il se contredirait. Il ne revient pas sur la critique qu'il a maintes fois formulée de l'illusion du libre-arbitre, selon laquelle l'homme se croit libre de ses choix, est doté d'un pouvoir absolu de décision, parce qu'il ignore que ses choix et ses décisions sont en réalité déterminés par un enchaînement de causes qu'il n'aperçoit pas, dont il n'a pas conscience. L'homme ne fait pas exception à la nature. Il est une partie de la nature. Et comme tous les êtres naturels, il est soumis à ses lois. Il agit ainsi en vertu des lois qui constituent sa nature et en même temps, il est soumis à la nécessité extérieure qui détermine ses rencontres avec les autres êtres. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'en vertu de la loi de nature qui le constitue et qui le pousse à conserver son être, eh bien l'homme est déterminé à se prescrire des règles de droit et à en prescrire à d'autres afin, je cite Spinoza, « afin de rendre la vie plus sûre et plus commode ». On voit donc que les lois humaines, c'est-à-dire les règles de droit chargées de régler la vie en société, eh bien les lois humaines ont pour finalité l'utilité sociale des hommes. On ne peut comprendre leur existence qu'à la lumière de cette nécessité. Mais alors pourquoi ? Pourquoi, me direz-vous ? Pourquoi considérer les lois humaines comme un domaine à part, comme semble faire ici Spinoza, si elles procèdent de la nécessité qui régit toute chose ? Et pour reprendre les termes ici de Spinoza, ligne 24, pourquoi, si, comme l'écrit Spinoza, si on accorde sans restriction que toutes choses sont déterminées en vertu des lois universelles de la nature, à exister et à agir d'une certaine manière précise et déterminée, pourquoi Spinoza fait-il des lois humaines un domaine à part ? Pourquoi déclare-t-il, je cite la suite, pourquoi déclare-t-il, je maintiens, c'est ligne 27, je maintiens que des lois de cette sorte dépendent d'une décision prise par les hommes. Je maintiens que des lois de cette sorte dépendent d'une décision prise par les hommes. Eh bien, comme on va le voir, il maintient sa position pour deux raisons. La première, eh bien parce qu'il est une partie de la nature, parce que sa puissance est une partie de la puissance de la nature, c'est-à-dire la puissance de Dieu, puisque Dieu et la nature, c'est la même chose. Et parce que sa puissance exprime la puissance infinie de la nature, eh bien, l'homme dispose d'un pouvoir d'initiative. Il est capable de se déterminer. Il est capable d'agir en vertu de la nécessité de sa nature, c'est-à-dire de la nécessité interne qui lui est propre. Et en ce sens, l'homme est libre. Il est libre. Mais attention, sa liberté ne consiste pas dans ce qu'on appelle le libre arbitre. Elle ne consiste pas dans un pouvoir absolu de choix qui supposerait qu'il a le pouvoir de faire autre chose que ce qu'il fait. Ce n'est pas ainsi que Spinoza entend la liberté. La liberté de l'homme consiste dans le déploiement de sa nature, dans l'expression de sa puissance. Elle consiste dans la mise en œuvre de la nécessité interne qui constitue sa nature et détermine son action. Aussi ne faut-il pas opposer, comme on le croit, la liberté à la nécessité. Mais s'il y a une notion qui est contraire à celle de liberté, ce n'est pas celle de nécessité, c'est celle de contrainte. C'est-à-dire, au fond, il y a deux nécessités, si vous réfléchissez bien. Il y a la nécessité interne de ma nature, que j'affirme en agissant quand je suis libre. Et puis, il y a la nécessité externe, celle qui vient des causes extérieures, que je subis. Quand, effectivement, là, je suis prisonnier, dépendant des causes extérieures. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la liberté de l'homme ? C'est l'expression de sa nécessité interne, de la nécessité de sa nature. Et donc, si on prend en considération la puissance d'agir de l'homme, qui s'exprime justement dans ses décisions, dans la décision notamment d'établir des lois, eh bien, comme le dit Spinoza, ligne 34, je le cite, on peut très bien dire, pour cette raison, que l'établissement de ces lois dépend d'une décision prise par les hommes. Voyez bien ce que cela signifie. Ça ne signifie pas que ici il y a l'expression d'un libre arbitre. Attention, ce n'est pas comme ça que parle Spinoza. Donc ça, c'est la première raison. Alors bien sûr, la puissance de l'homme n'est pas la seule cause déterminante. Pour expliquer les choses, il faut prendre en considération l'ensemble des causes qui les déterminent. Et pour expliquer ainsi l'établissement des lois humaines, il faut considérer l'ensemble des causes qui ont déterminé leur établissement. Car, rappelons-le, dans la réalité, tout est nécessaire. La réalité, c'est le règne de la nécessité. Tout ce qui se produit s'explique nécessairement selon des lois. Et c'est par ignorance que nous imaginons que les choses pourraient se produire autrement. C'est par ignorance que nous croyons qu'il y a de la contingence, du hasard. Mais que tout soit nécessaire n'implique pas, comme va l'expliquer Spinoza, n'implique pas que dans la pratique, pour l'usage de la vie, c'est l'expression qu'il emploie, cela n'implique pas que dans la pratique, nous puissions toujours considérer les choses ainsi. Et je vous demande de faire très attention à la fin du premier paragraphe, à ce qu'il dit à la fin du premier paragraphe, ligne 51. Pour l'usage de la vie, il est préférable et même nécessaire de les considérer, c'est-à-dire de considérer les choses comme des possibles. Moins important, évidemment, c'est le terme de possible. Alors, comprenons bien. Comme nous ignorons nécessairement l'ensemble des causes qui déterminent les choses, comme nous ignorons nécessairement ce qui va se produire à l'avenir, l'ignorance est un fait incontournable. Eh bien, nous sommes contraints, quand nous agissons, nous sommes contraints, dans la pratique, d'appréhender le futur sous la catégorie du possible, comme s'il n'y avait pas de nécessité. Et en attendant de savoir ce qui se produira, parce que ce qui se produira, c'est ce qui est nécessaire, et bien en attendant de savoir ce qui se produira, nous sommes contraints d'agir en pratique comme s'il y avait du possible, comme si nous avions à choisir entre plusieurs voies possibles, entre plusieurs options possibles. Et donc je reprends ici le propos de Spinoza. Pour l'usage de la vie, il est préférable et même nécessaire de considérer les choses comme des possibles. Vous voyez, dans l'usage de la vie, on ne peut pas se passer des notions de possible. Et on ne peut pas s'empêcher, on peut pas se. Même si on n'est pas naïf, même si on sait que tout est nécessaire, notre ignorance fait que nous ne pouvons pas faire autrement que d'envisager ce que nous allons faire comme une possibilité parmi d'autres. Donc sans avoir la naïveté de croire que l'établissement des lois s'explique seulement par la décision des hommes qui légifèrent, eh bien nous devons en pratique faire comme si ces décisions était la seule cause déterminante. Nous devons nous arrêter à cette décision en tant qu'elle est la cause immédiatement productrice de l'établissement des lois humaines, ou comme l'explique Spinoza, en tant qu'elle est leur cause prochaine. Et nous allons lire le texte ici. Donc ça, c'est la seconde raison. Et donc, je vous invite à lire ce que Spinoza écrit, ligne 42. J'ai dit que ces lois, donc les lois humaines, les lois de la société, j'ai dit que ces lois dépendent d'une décision prise par les hommes parce que nous devons définir et expliquer les choses par leur cause prochaine, c'est-à-dire ici la décision de l'homme, et que des considérations tout à fait générales sur le destin et l'enchaînement des causes ne nous sont d'aucun usage quand il s'agit de former et d'ordonner nos pensées relatives aux choses particulières. C'est-à-dire que dans la vie, on ne philosophe pas sur la nécessité. Il est condamné à choix, on est condamné à agir, et donc à agir dans l'ignorance, donc effectivement comme s'il y avait du possible. Donc les choses particulières dont il est ici bien sûr question, eh bien ce sont les lois humaines qu'un législateur décide d'établir. Toujours est-il tout de même que le véritable sens du terme de loi, c'est, je le rappelle, la loi considérée absolument. C'est ce que rappelle Spinoza à la fin du paragraphe. C'est-à-dire la loi qui exprime la nécessité qui régit toute chose. Mais ce n'est pas ainsi que les hommes parlent ordinairement des lois. Puisque je vous rappelle ce petit passage, ligne 56, début du second paragraphe, communément, l'on n'entend pas par loi autre chose qu'un commandement que les hommes peuvent également exécuter ou négliger, auquel ils peuvent se soustraire. Ainsi conçu, la loi n'exprime aucune nécessité. Elle est perçue comme un commandement, donc auquel on peut se soustraire, que l'on peut négliger. Et donc, comme le dit aussi Spinoza au début du second paragraphe, c'est aussi par métaphore, que le sens commun du mot, c'est-à-dire le sens de loi comme commandement, se voit appliqué aux choses naturelles. On imagine que les choses naturelles sont soumises à des lois de manière analogue aux hommes qui sont soumis aux commandements qui leur sont prescrits. On va parler en quelque sorte des lois de la nature à la façon dont on parle des lois humaines, comme si elles étaient instituées. Le problème est alors de comprendre d'où vient ce sens commun de la loi comme commandement. Comment expliquer que les hommes entendent ordinairement les lois comme des commandements? Comment expliquer ça? Eh bien, comme va le montrer Spinoza, l'explication se trouve dans l'ignorance de la plupart des hommes. Et là, je cite ce qu'il écrit, ligne 64, à partir de la ligne 64, première colonne. Comme la vraie fin des lois. Je rappelle que la vraie fin des lois, c'est rendre la vie plus sûre et plus commode, comme on l'a vu. Comme la vraie fin des lois n'apparaît d'ordinaire qu'à un petit nombre et que la plupart des hommes sont à peu près incapables de la percevoir, leur vie n'étant d'ailleurs rien moins que conforme à la raison, eh bien les législateurs ont sagement institué une autre fin bien différente de celle qui suit nécessairement de la nature des lois. Donc, ligne 64. Hein. Les législateurs ont sagement institué notre fin bien différente de celle qui suit nécessairement de la nature des lois. Ils promettent au défenseur des lois ce que le vulgaire aime le plus, tandis qu'ils menacent leurs violateurs de ce qu'ils redoutent le plus. Vous avez repéré. Ainsi, parce que la plupart des hommes sont ignorants et ils font partie de ce que Spinoza appelle le vulgaire. Vous savez que le vulgaire, c'est l'opinion de la foule, des ignorants. Eh bien, comme la plupart des hommes sont ignorants, ils ne voient pas les lois comme le moyen d'assurer leur vie et leur sécurité en société. Cette nécessité n'apparaît vraiment qu'à un petit nombre. Aussi sont-ils enclins à les considérer comme un carcan insupportable qui bride leur liberté et à leur désobéir quand ils le peuvent. Et c'est pourquoi, pour les faire respecter, eh bien, les législateurs ont sagement institué, je reprends l'expression de Spinoza, une autre fin, un autre but, si vous voulez, une autre fin bien différente de cette fin qui suit nécessairement de la nature des lois. C'est-à-dire un système de récompense et de châtiment destiné à obtenir des hommes l'obéissance aux lois. Vous voyez que ici, les législateurs n'ont pas d'autre moyen pour faire respecter les lois que de jouer sur les passions des hommes, que de faire marcher l'espoir d'obtenir des honneurs et des récompenses quand on obéit, et puis la crainte d'être châtié en cas de désobéissance. Et je cite ce qu'écrit Spinoza, ligne 73 à 75, en bas et en haut. Ils se sont ainsi efforcés de contenir le vulgaire dans la mesure où il est possible de le faire comme on contient un cheval à l'aide d'un frein. C'est donc l'ignorance des hommes, l'ignorance qui concerne la vraie fin des lois, leur nécessité et leur utilité, c'est l'ignorance des hommes qui est à l'origine de la représentation de la loi comme commandement. Par ignorance ici, n'entendons pas simplement l'absence de savoir qui consiste dans l'ignorance des causes. L'ignorance n'est pas seulement une donnée intellectuelle, elle est surtout un mode d'existence par lequel les hommes sont ballottés d'une passion à l'autre, au gré des circonstances extérieures, et sont incapables de maîtriser et d'orienter leur conduite. Et comme on l'a vu dans la préface du traité, souvenez-vous, l'ignorance prend une forme exacerbée avec la superstition face à l'avenir. Et à l'opposé de ce mode d'existence, il y a celui du petit nombre, du petit nombre de ceux qui vivent sous la conduite de la raison et qui, parce qu'ils en comprennent la nécessité, ne vivent pas les lois comme un carcan qui les prive de leur liberté d'agir, mais qui leur obéissent de manière autonome sans avoir besoin d'être commandés. C'est-à-dire qu'ils obéissent d'eux-mêmes aux lois parce qu'ils en comprennent la nécessité sans avoir besoin d'être contraints. À condition, bien sûr, que les lois instituées soient vraiment destinées à assurer la conservation de la société. Ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, comme le note Spinoza, seul un type d'homme, seul, au fond, celui qu'on peut appeler le sage, peut être véritablement considéré comme un homme juste. Je cite Spinoza, ligne 81, colonne de droite. Ligne 81. Il est très vrai que celui qui rend à chacun le sien, alors c'est une très vieille formule, rendre à chacun le sien, qui exprime l'idée de justice. Rendre à chacun le sien, c'est rendre à chacun son dû, ce qui lui revient, si vous voulez. et éviter de le voler, par exemple. Bon, je reprends ma formule. Il est très vrai que celui qui rend à chacun le sien par crainte du gibet agit par le commandement d'autrui et est contraint par le mal qu'il redoute. On ne peut dire qu'il soit juste. Mais celui qui rend à chacun le sien parce qu'il connaît la vraie raison des lois et leur nécessité agit en constant accord avec lui-même et par son propre décret, non par le décret d'autrui. Il mérite donc d'être appelé juste. C'est ça la vraie justice. À partir de là, on comprend aisément que la définition de la loi comme commandement se soit imposée. D'une part, parce que l'ignorance est un fait majoritaire, rares sont les hommes capables d'agir sous la conduite de la raison, qui comprennent la nécessité des lois et leur véritable finalité. Et puis parce que, d'autre part, l'ignorance est un fait premier. On commence par être ignorant avant d'être savant. Donc, vous voyez, on commence à comprendre d'où vient ici le sens du terme de loi comme commandement. Alors, de l'analyse générale des lois, et particulièrement des lois humaines, on peut maintenant passer à la distinction qui existe entre la loi humaine et la loi divine. Et ici, si on y regarde de près, le propos de Spinoza ne peut manquer d'étonner. Il est assez étrange. Lisez avec moi la ligne 95. Puis donc, que la loi n'est rien d'autre qu'une règle de vie que les hommes se prescrivent à eux-mêmes ou prescrivent à d'autres en vue de quelque fin. Il paraît y avoir lieu de distinguer la loi en humaine et divine. Je dis que c'est un propos assez étrange car, au lieu de distinguer la loi humaine et la loi divine selon le vrai sens du terme de loi, en termes de nécessité, il part de la définition du mot loi selon le sens commun pour distinguer loi humaine et loi divine. C'est-à-dire que loi humaine et loi divine sont ainsi présentées comme les deux espèces d'un même genre de loi qui se définit comme une règle prescrite, c'est-à-dire comme un commandement. Mais vous voyez bien que Spinoza utilise le verbe « paraître ». Il paraît y avoir lieu de distinguer la loi en humaine et divine. L'utilisation de ce verbe indique que Spinoza n'adhère pas à cette définition et qu'il n'adhère pas non plus à cette façon de distinguer loi humaine et loi divine. Et d'ailleurs, comme va le montrer la suite du chapitre, il s'agit là, en fait, d'une stratégie de Spinoza. Il commence par regrouper la loi humaine et la loi divine, à partir du sens commun, pour montrer ensuite qu'on a affaire à deux lois radicalement différentes et approfondir progressivement leurs différences. Voilà comment il procède. La définition qu'il donne, d'ailleurs, de chacune des lois et de leur objet, aussitôt après ce regroupement, montre déjà que ces lois n'ont vraiment rien de semblable. Je cite le propos de Spinoza, ligne 98 à 102. Par loi humaine, j'entends une règle de vie servant seulement à la sécurité de la vie et de l'État. Par loi divine, une règle ayant pour objet seulement le souverain bien, c'est-à-dire la vraie connaissance et l'amour de Dieu. Alors, loin d'être une règle prescrite aux hommes qui, pour assurer sa fonction, exige soumission de leur part, comme la loi humaine, la loi divine, C'est ce que nous allons comprendre. La loi divine émane de la lumière naturelle, c'est-à-dire de la raison. Elle part de la seule considération de la nature humaine, et comme on va le voir, elle consiste dans l'adhésion intellectuelle à l'ordre naturel qui procède de la puissance de Dieu, laquelle s'exprime en toute chose. Et cette adhésion intellectuelle, eh bien, c'est ce que Spinoza va appeler l'amour de Dieu. Alors, évidemment, c'est ce qu'il faut comprendre. Comme le dit Spinoza, l'objet de la loi divine, c'est le souverain bien. Le souverain bien qui désigne le plein accomplissement de notre nature. Et la loi fondamentale de notre nature, c'est celle qui consiste à rechercher ce qui nous est utile. Puisque, au fond, notre nature est constituée par l'effort de persévérer dans notre être, que Spinoza caractérise dans l'éthique comme le désir. Le désir, c'est la puissance propre de l'homme. C'est cette force qui le fait persévérer dans son être. Cette force par laquelle il s'affirme et produit des actions. Vous voyez, c'est ça le désir. Bon. Eh bien, ce qui nous constitue, si ce constitue notre nature, c'est ce désir. Et notre désir, qui est notre puissance d'être et d'agir, s'accomplit en parvenant au souverain bien quand nous connaissons vraiment Dieu et parvenons à l'aimer. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Connaître Dieu, ce n'est pas se le représenter imaginairement comme un être extérieur, comme une volonté extérieure, au commandement de laquelle nous devons nous soumettre. Mais c'est en partant de l'idée que nous en avons en nous, développer cette idée et l'appréhender comme la cause première de tout ce qui existe. Et là, je vous invite à regarder page 2, ligne 48 à 50. Je vais citer des formules qui sont assez claires, qui permettent de mieux saisir ce que l'entend par là. Ligne 48 à 50, page 2, voilà ce qu'il écrit. « L'amour de Dieu naît de sa connaissance, et la connaissance de Dieu doit se puiser dans des notions communes, certaines et connues par elles-mêmes. » Ces notions communes, ce sont des notions que nous pensons tous de la même manière, que nous pensons rationnellement, si vous voulez. Connaître Dieu, c'est ainsi se connaître soi-même comme participant du plus profond de soi-même par le désir qui nous constitue, à la puissance infinie de production de la nature divine qui s'exprime nécessairement en toute chose. Car connaître Dieu, c'est se connaître soi-même comme participant, quelque sorte, de l'intérieur, à l'activité de Dieu, à la puissance de Dieu qui s'exprime en toute chose. Connaître Dieu, c'est ainsi connaître, et là je vais encore citer une autre formule qui se trouve plus loin encore, page 3 cette fois-ci. Ligne 83 à 86. Ligne 83 à 86, colonne de droite. Connaître Dieu, c'est ainsi connaître que Dieu agit et dirige toute chose par la seule nécessité de sa nature et de sa perfection, et que ses décrets et volitions sont des vérités éternelles et enveloppe toujours une nécessité. On peut même lire ce qu'il y a juste avant, et l'ensemble, vous allez voir, c'est clair. Nous concluons donc que Dieu ne peut être qualifié de législateur, de prince, et n'est appelé juste miséricordieux, etc., que suivant la façon de comprendre du vulgaire, et par un défaut de connaissance. En réalité, Dieu agit et dirige toute chose par la seule nécessité de sa nature et de sa perfection, et ses décrets et évolutions sont des vérités éternelles et enveloppent toujours une nécessité. Alors c'est pourquoi les hommes les plus sages, ceux dont on a déjà vu qu'ils obéissent d'eux-mêmes aux lois humaines, parce qu'ils en comprennent la nécessité et n'ont pas besoin d'être contraints par autrui, c'est pourquoi donc les hommes les plus sages, eh bien, comprennent aussi, je cite ici Spinoza, page 1, retournez page 1, colonne de droite, c'est le début du texte, parce que j'ai fait un trait, et je fais commencer un autre texte, si vous voulez, dans la colonne de droite. Hein. J'ai mis un petit trait, là, pour montrer la différence. Et ça commence par cette formule, l'entendement. Qu'est-ce que c'est que l'entendement ? C'est notre puissance de comprendre. L'entendement étant la meilleure partie de notre être. Donc l'entendement est la meilleure partie de notre être. Eh bien, les plus sages savent, ils comprennent que l'entendement, notre puissance de comprendre, notre puissance intellectuelle, si vous voulez, est la meilleure partie de notre être. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il nous procure les moyens de parvenir à la connaissance de Dieu. Je lis la suite. La suite, car il est certain que si nous voulons vraiment chercher l'utile, nous devons par-dessus tout nous efforcer de parfaire notre entendement autant qu'il est possible, car dans sa perfection doit consister notre souverain bien. C'est-à-dire, au fond, c'est en perfectionnant notre entendement, notre puissance de comprendre et de penser, que nous allons atteindre ici le souverain bien. Et ici, il faut bien considérer que l'entendement n'est pas une pure faculté intellectuelle, il produit des effets, il transforme notre existence. Il y a une transformation qui s'opère justement la puissance de l'entendement qui permet de connaître Dieu. Alors, ici, vous avez un paragraphe particulièrement dense que nous n'allons pas expliquer phrase après phrase, parce qu'en fait, il faudrait expliquer toute l'éthique de Spinoza. Ça me paraît difficile. Mais dans le paragraphe 3, vous avez un exposé particulièrement condensé du cheminement que Spinoza suit dans son éthique et dont il fait ici, en quelque sorte, un résumé. Alors, j'en retiendrai la conclusion. Et je ferai attention aux commentaires qu'en fait ensuite Spinoza. Je pense vous avoir dit l'essentiel, même si c'est peut-être plus intuitif que véritablement compris. Hein ? Bon. Si l'on s'en tient à la conclusion, on ne devrait pas parler en toute rigueur de loi divine. Si on entend par là, par le terme de loi, un commandement, une règle prescrite par une volonté extérieure. Puisque, Spinoza l'a montré, la loi divine, c'est une règle intérieure. C'est une règle intérieure qui procède de la puissance de l'entendement, par laquelle l'entendement cherche à atteindre le souverain bien. Vous voyez ? Donc, on ne devrait pas parler de la loi divine. On ne devrait pas utiliser le terme de loi si on entend bien sûr par là un commandement. Et c'est pourquoi Spinoza va, après la conclusion, enfin je vais lire l'ensemble, lire la conclusion et le commentaire qui vient après. Donc la conclusion, elle se trouve, page 1, colonne de droite, ligne 32, mais c'est dans le deuxième texte, hein, ligne 32. C'est donc à cela, j'ai souligné, hein, c'est donc à cela, je veux dire à la connaissance et à l'amour de Dieu, que se ramène notre souverain bien et notre béatitude. Toutefois, comme le montre ensuite Spinoza dans son commentaire, on peut employer l'expression loi divine, mais à la condition de ne pas oublier que son usage est métaphorique. à condition de ne pas oublier que c'est là une manière de parler. Et qu'on ne devrait pas vraiment parler de loi divine. C'est pour ça que je souligne son commentaire, ligne 35. Ligne 35. Par suite, les moyens que nécessite cette fin de toutes les actions humaines, à savoir Dieu lui-même, en tant que son idée est en nous, peuvent être appelés commandements de Dieu, puisqu'ils sont prescrits en quelque sorte par Dieu même en tant qu'il existe pour notre âme, et ainsi une règle de vie qui a cette fin pour objet est très bien dite loi divine. Mais c'est une façon de parler. Et vous voyez que Dieu n'est pas extérieur à nous, il est en nous. C'est en partant de l'idée que nous en avons tous, nous avons tous une idée de Dieu, et en développant cette idée, par la puissance de l'entendement, qu'on va parvenir vraiment à le connaître. Et de cette connaissance naît l'amour de Dieu. En tout état de cause, le véritable amour de Dieu, qui procure ce que Spinoza appelle la béatitude, c'est-à-dire la joie suprême, ne doit pas être confondu avec l'amour que les hommes superstitieux vouent à Dieu, comme à une puissance extérieure. Et dans l'éthique, Spinoza définit l'amour, si ce n'est pas défini, mais il définit l'amour comme une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. C'est la définition qu'il donne dans l'éthique de l'amour, dans la troisième partie de l'éthique. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Pourquoi c'est une joie? Qu'est-ce que c'est qu'une joie? Une joie, c'est un accroissement du désir, c'est une intensification du désir, c'est une augmentation de notre puissance d'agir. C'est-à-dire que notre désir est en expansion. Vous voyez? Et la tristesse, c'est l'inverse. Il y a une sorte de dépression. Vous voyez? Bon. Donc, l'amour est une joie. Un accroissement de notre désir, une intensification de notre désir, qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Qu'est-ce que c'est que la béatitude? Qu'est-ce que c'est que le souverain bien? C'est une joie, mais ce n'est pas une joie comme une autre. Ce n'est pas une joie comme une autre, puisque aimer Dieu, ce n'est pas se le représenter comme un être extérieur à soi-même. C'est vivre au contraire sa présence comme un élan intérieur, comme le sentiment de participer intérieurement de la puissance infinie, de sa puissance infinie qui produit toute chose. Ainsi, la béatitude, c'est une joie pure, c'est un amour pur, dénué de toute dépendance passionnelle. L'amour est un sentiment plus ou moins passionnel. La béatitude, c'est un amour qui n'est lié à aucune représentation d'un objet extérieur. Et donc, ici, je vous invite à lire page 2, cette fois-ci, le texte qui se trouve à gauche, ligne 3, ligne 3 à 5. Celui-là seul suit la loi divine, qui a souci d'aimer Dieu, non par crainte du supplice, ni par amour d'une autre chose, telle que les plaisirs, le renom, la réputation, etc., etc., mais pour cette raison seulement qu'il connaît Dieu, autrement dit, qu'il connaît que la connaissance et l'amour de Dieu est le souverain bien. Donc, vous voyez ici que la béatitude diffère du tout au tout de l'amour superstitieux pour Dieu. C'est-à-dire que la béatitude est un amour pur, qui n'attend rien en retour. On ne peut pas aimer Dieu en attendant qu'il il nous renvoie la réciproque. Vous voyez ? C'est-à-dire que, évidemment, pour Spinoza, Dieu n'est pas un être que l'on prie, n'est pas extérieur, puisqu'il est intérieur à nous. Donc, c'est un amour qui n'attend rien en retour, contrairement à la superstition qui aime Dieu comme une puissance extérieure. Je reprends une formule de Spinoza, ligne 10. Par crainte d'un supplice ou d'un châtiment, ou par amour d'une autre chose de laquelle nous désirons du plaisir. Ainsi, l'homme superstitieux craint d'aller en enfer. Ou, à l'inverse, il espère obtenir de Dieu des faveurs. Il va mettre un cierge pour réussir à son examen. Donc c'est un homme asservi à des passions, ballotté entre la crainte et l'espoir. Et cet homme, c'est aussi, selon l'expression que Spinoza emprunte à l'apôtre Paul, qu'il cite souvent, hein, c'est une grande référence pour Spinoza. Cet homme superstitieux, c'est aussi l'homme charnel, expression que vous rencontrez dans les épîtres de Paul. C'est cet homme qui n'a de Dieu, comme dit Spinoza, qu'une connaissance trop insuffisante et qui ne trouve dans le souverain bien que connaît et contemple la pensée pure rien, hein, je cite Spinoza, rien, ligne 19, rien qu'il puisse toucher ou manger ou qui affecte la chair dont il recherche le plus les délices. Donc, l'analyse de la loi divine a montré qu'elle n'a rien d'un commandement, mais qu'elle est au contraire une règle intérieure. Aussi doit-on encore la distinguer de la loi divine révélée, comme la loi de Moïse, qui se rapproche d'ailleurs davantage d'une loi humaine, qui est en fait une loi humaine. La loi divine révélée n'est pas la loi divine authentique. La loi de Moïse n'est divine qu'en ce qu'elle est instituée par révélation. C'est-à-dire que le prophète Moïse applique aux Hébreux la loi qui lui est révélée dans ses prophéties. Et ce qui est important, évidemment, c'est que les Hébreux croient, et Moïse aussi le croit, que cette loi vient de Dieu, vient d'une puissance surnaturelle. Alors, par opposition à la loi divine révélée, la véritable loi divine, que l'on appelle la loi divine naturelle, eh bien, se caractérise par son universalité, puisqu'elle procède de la nature humaine et concerne ainsi tous les hommes. Contrairement, justement, à la loi de Moïse, ou à toute autre forme de loi divine révélée, qui, je cite, ligne 30, est surtout adaptée à la complexion propre et à la conservation d'un certain peuple. Le caractère universel de la loi divine naturelle, exclut ainsi toute conception du peuple élu. Et de l'universalité de la loi divine, on peut déduire deux autres propriétés qui en sont des conséquences. D'abord, la loi divine naturelle n'exige pas qu'on ait foi dans des récits historiques pour être établi. C'est-à-dire, au fond, la loi divine naturelle n'a pas besoin de ce que raconte la Bible, de ce qui est raconté dans la Bible, puisque l'amour de Dieu naît de sa connaissance par la lumière naturelle, par la raison. Si la lecture de la Bible est inutile pour connaître Dieu et l'aimer, en revanche, comme l'écrit Spinoza, elle est recommandée à celui qui veut s'instruire de politique, à celui qui veut réfléchir à la meilleure manière d'adapter à un peuple des lois, la meilleure manière d'adapter plutôt un peuple aux exigences de la vie en société. Regardez ce que dit Spinoza, ligne 55, toujours page 2. Nous n'ignorons pas que la lecture de la Bible, n'en soit très utile en ce qui concerne la vie civile. En d'autres termes, la Bible, ce n'est pas un livre fait pour aimer Dieu. C'est un livre qui répond surtout à des préoccupations politiques et sociales. Et la religion y apparaît avant tout comme ayant une fonction d'utilité sociale et politique. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Autre conséquence du caractère universel de la loi divine naturelle, la loi divine n'a aucun besoin de s'appuyer sur des cérémonies rituelles. Alors, bien sûr, les églises en font grand cas. Mais ces cérémonies n'ont aucune importance. Elles ne sont rien d'essentiel. Je lis ce qu'écrit Spinoza, ligne 63. Regardez bien. Ligne 63. Que cette loi divine naturelle n'exige pas de cérémonie rituelle, c'est-à-dire d'actions qui en elles-mêmes sont indifférentes et ne sont appelées bonnes qu'en vertu d'une institution. Comme l'a montré Spinoza dans sa préface, les rites, les cérémonies, le culte, c'est surtout un moyen d'encadrer et d'exercer un contrôle sur les fidèles, en fixant et en encourageant aussi leur superstition. Comme disait Spinoza dans la préface, sous couleur de religion. Sous couleur de religion. Alors ici, je crois qu'il faut faire attention à ce qu'écrit Spinoza. Il inaugure en quelque sorte une critique des religions révélées qui s'appuie sur le dispositif institutionnel d'une église et d'un culte. Et cette critique sera largement reprise au XVIIIe siècle par les philosophes adeptes de ce qu'on va appeler la religion naturelle, c'est-à-dire une religion sans intermédiaire entre Dieu et les croyants. Ce sera par exemple le cas de Jean-Jacques Rousseau dans son traité L'éducation, les mille, dans la quatrième partie de son traité L'éducation, plus exactement dans la profession de foi du vicaire savoyard. Et vous avez là des pages extrêmement célèbres de Rousseau sur la question, mais il n'y a pas que lui. Et là, quand je dis religion naturelle, pour Rousseau, Dieu est une volonté. Hein. C'est pas le Dieu Spinoza. Spinoza énonce enfin une quatrième propriété de la loi divine naturelle, qui permet de mesurer sa différence radicale d'avec la loi humaine. Je cite cette quatrième propriété, donc ligne 80, page 2, ligne 80. Donc c'est en haut à droite. Quatrièmement, que la plus haute récompense de la loi divine consiste à connaître cette loi même, c'est-à-dire Dieu, et à l'aimer en être vraiment libre, d'une âme pure et constante, tandis que le châtiment est la privation de ses biens et la servitude de la chair, c'est-à-dire une âme inconstante et flottante. Alors, expliquons bien ce point-là. Expliquons bien, je crois que c'est important. Souvenez-vous que si l'on doit envisager les lois humaines comme des commandements, c'est, rappelez-vous, parce qu'il est utopique de penser que les hommes auront tous la sagesse d'obéir par eux-mêmes à ces lois, en comprenant la nécessité. Et comme la plupart des hommes sont enclins à désobéir, rappelez-vous, il faut que les législateurs ajoutent à la véritable finalité des lois, qui est d'assurer la sécurité, une seconde finalité qui consiste à récompenser ceux qui obéissent et puis à punir ceux qui désobéissent. Ainsi, comme vous le voyez, la sanction des lois humaines est d'une autre nature que leur véritable finalité. C'est-à-dire que, au fond, la sanction des lois humaines, elle consiste à punir ceux qui désobéissent et puis à récompenser ceux qui obéissent. Or, si l'on compare maintenant la loi divine et la loi humaine, on voit que contrairement à la loi humaine, qui exige au fond un double régime de finalité, la loi divine n'en connaît qu'un seul. Puisque, comme le dit ici Spinoza, la récompense de la loi divine, c'est sa connaissance elle-même. Je ne suis pas récompensé parce que je respecte la loi divine. Non, ma récompense, c'est de connaître la loi divine, qui me fait aimer Dieu. Et son châtiment consiste dans son ignorance. Et cette ignorance se traduit par la vie misérable de l'ignorant, qui est asservi à ses passions. Elle se traduit, je cite encore Spinoza, par la servitude de la chair, c'est-à-dire une âme inconstante et flottante. Vous voyez, c'est ça la misère. La misère, c'est cette fluctuation de l'âme qui fait que l'homme est ballotté en permanence entre des passions souvent contraires, l'espoir, la crainte. Et comme le décrit très bien Spinoza au début de sa préface du traité. Tandis que l'homme heureux, l'homme accompli, le sage, eh bien, jouit d'une joie constante. Et non pas qu'il soit en dehors de la société, en dehors du monde, à l'égard des autres, non. Il lui aussi, il est soumis aux aléas de la vie, hein, à ses difficultés, mais il a gagné cette force qui lui permet de jouir d'un bonheur constant, malgré les malheurs. Si l'on mesure maintenant combien la loi divine diffère de la loi humaine, si on mesure bien leur différence, comment comprendre, à la lumière de cette analyse, que les hommes persistent à se représenter Dieu comme un législateur et sa loi comme un commandement? Serait-ce que cette représentation est fondée, qu'elle est justifiée par l'usage de la raison? Ou pour reprendre les termes de Spinoza, donc toujours page 2 à droite, ligne 1 à 3, ligne 1 à 3, si vous prenez le deuxième texte, je fais un petit trait pour séparer. Après ces observations, écrit Spinoza, nous pouvons rechercher, premièrement, si par la lumière naturelle, nous pouvons concevoir Dieu comme un législateur ou un prince prescrivant des lois aux hommes. Voilà la question à laquelle on va devoir répondre. Et c'est cette question qu'il aborde donc dans un troisième temps. Alors, ce sera pour nous le dernier, parce que le quatrième, je vais le traiter assez rapidement. Et vous allez voir que Spinoza va y répondre négativement, en montrant que la représentation de Dieu comme législateur est fondée sur l'ignorance de sa nature divine. Alors, comme on a déjà eu l'occasion d'en parler en lisant le chapitre 6 sur les miracles, la représentation de Dieu comme législateur présuppose qu'on distingue en lui deux facultés, la volonté et l'entendement, alors que, en réalité, elles ne sont en Dieu qu'une seule et même chose. Alors, développons un peu tout de même, même si on a déjà vu. On dit ainsi que Dieu a une volonté puisqu'il prescrit des lois. Et on dit aussi qu'il a un entendement puisqu'il les conçoit avant de les prescrire. Or, comme le souligne Spinoza, cette distinction de la volonté et de l'entendement en Dieu est relative à notre raison. C'est l'expression qu'il emploie. Elle est relative à notre raison, dont nous savons qu'elle est limitée. Et par conséquent, cette distinction en Dieu de la volonté et de l'entendement ne correspond pas à la réalité de la nature divine. Et comme on l'a vu, souvenez-vous, au début du chapitre 4, eh bien notre raison est limitée car elle ne peut pas connaître l'intégralité des causes qui déterminent les choses. Et imaginer Dieu comme une volonté, c'est projeter sur lui la représentation que l'homme se fait de lui-même en se croyant doté d'un pouvoir absolu de décision qu'il appelle sa volonté, son libre arbitre. Pourquoi ? Parce qu'il ignore en réalité l'enchaînement des causes qui déterminent ses décisions. Comme il ignore l'enchaînement des causes qui déterminent ses décisions, eh bien il s'attribue à lui-même, il attribue à sa volonté la cause de ses décisions. Vous voyez ? Bon, on connaît cette critique par cœur, hein, la critique du libre arbitre. Donc elle est fondée sur l'ignorance des causes. Par conséquent, projeter sur Dieu l'image fausse de la volonté que l'homme a de lui-même, vous voyez, ce n'est pas vraiment se donner les moyens de concevoir vraiment la nature divine. On ne peut donc pas appréhender la nature divine à partir du point de vue limité et partiel de notre raison. Et concevoir la nature divine dans son absoluité, c'est concevoir Dieu comme la substance unique. Le terme n'est pas ici dans le traité, c'est dans l'éthique. La substance unique, c'est la réalité unique. Dieu est la réalité unique. Et toutes les choses sont en lui. Nous sommes des parties de Dieu. Tous les êtres sont des parties de Dieu. C'est la réalité unique dont procède nécessairement toute chose. Ainsi, en Dieu, la volonté et l'entendement ne se distinguent pas, puisque ce que Dieu conçoit existe nécessairement. Et pour le faire comprendre, Spinoza donne ici l'exemple du triangle, de la nature du triangle. Alors, lisez avec moi, page 2, ligne 30. Ligne 30. Attendez, c'est bien ça ? À droite, ligne 30 à droite, colonne de droite. Vous avez trouvé ? Ainsi, relativement à Dieu, non pas relativement à notre raison, mais relativement à Dieu, c'est tout un de dire que Dieu a de toute éternité voulu et décrété que les trois angles d'un triangle fussent égaux à deux droits, ou que Dieu a conçu cette vérité par son entendement. Je commente un peu. La nature du triangle consiste dans la nécessité interne qui le constitue et qui fait qu'il a nécessairement pour propriété que la somme de ses angles est égale à deux angles droits, c'est-à-dire à 180 degrés. Si le triangle est ce qu'il est, ce n'est pas en raison d'une décision arbitraire de Dieu qui aurait pu vouloir, après tout, que la somme des angles du triangle est égale à 367 degrés. Pourquoi pas ? Bon. Donc, si le triangle est ce qu'il est, ce n'est pas en raison d'une décision arbitraire de Dieu qui agirait comme un prince, selon son bon vouloir. Mais c'est en vertu de la nécessité de la nature divine qui régit toute chose. Ainsi, la nécessité interne qui constitue la nature du triangle, je cite Spinoza, ligne 16, est contenue de toute éternité dans la nature de Dieu comme une vérité éternelle. Et ce que je dis ici, ce que l'on dit ici du triangle, on peut le dire de toute chose, en tant que toute chose procède nécessairement de la nature divine. Ainsi, on ne peut pas concevoir Dieu comme une volonté qui prescrit des lois aux hommes, tel un législateur ou un prince. Alors vous me direz, oui, mais tout de même, quelque chose qui ne va pas, c'est que Spinoza, il parle souvent de décrets. Il parle des décrets de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un décret ? C'est une décision de la volonté. Alors, et c'est vrai, vous auriez raison de le remarquer. Mais et c'est vrai que quand Spinoza utilise l'expression « décret », c'est au fond par une sorte de concession au langage courant. Mais en aucun cas, les décrets de Dieu ne sont des commandements de sa volonté. Ce sont au contraire des vérités éternelles qui expriment des rapports nécessaires. Voyez, comme la propriété du triangle. Et comme va le montrer maintenant Spinoza, il n'y a de commandement que dans la représentation imaginaire et anthropomorphique que les hommes se font de Dieu parce qu'ils sont ignorants. Et trois exemples. Spinoza va utiliser trois exemples. Les trois exemples qui vont suivre, d'ailleurs, sont tirés de la lecture de la Bible. Je les présente. Et c'est surtout le premier qui va être intéressant, celui qui est le plus connu et le plus développé par Spinoza. Le premier, c'est l'exemple d'Adam, le premier homme. Dans le récit de la Genèse, au chapitre 2 et 3, je vous ai photocopié ces deux chapitres. C'est l'exemple le plus important, car il permet de montrer le mécanisme de l'ignorance qui conduit à se représenter Dieu comme un législateur. Ça, c'est le premier exemple. Je vais y revenir. Le deuxième, c'est celui des Hébreux, qui reçoivent le décalogue de Moïse. Et puis le troisième, c'est celui des prophètes, et plus particulièrement de Moïse. Les prophètes qui ont écrit des lois au nom de Dieu et sont tout aussi ignorants que les hommes auxquels ils s'adressent. Alors, pour aider la lecture, puisqu'on va prendre surtout le premier exemple, je vous ai donc photocopié les chapitres 2 et 3 de la Genèse, auquel Spinoza d'ailleurs fait référence. Alors, je vous rappelle un peu l'histoire, telle qu'on nous l'a racontée, et telle qu'elle est racontée. Le récit de la Genèse, comme chacun le sait, c'est l'histoire d'Adam, le premier homme, qui, selon la lecture traditionnelle qui en est faite, est puni par Dieu parce qu'il a désobéi à son commandement en mangeant du fruit de l'arbre défendu, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on présente cette histoire comme l'histoire du péché originel depuis saint Augustin. Péché originel, pourquoi ? Parce que ce péché, le péché d'Adam, explique ce qu'est devenu la condition humaine. C'est une condition déchue, puisqu'elle est originellement pécheresse. Saint Augustin insiste beaucoup là-dessus, Pascal à sa suite également. Et en désobéissant à Dieu, eh bien Adam a commis une faute qu'il transmet à la suite des générations qui héritent de sa culpabilité. Et alors, c'est la raison pour laquelle l'humanité est condamnée par Dieu à la souffrance. Souffrance du labeur. Tu travailleras à la sueur de ton front. Souffrance du travail de l'accouchement. Et puis aussi, condition mortelle. L'humanité est vouée désormais à la mort, puisque l'arbre de vie est désormais inaccessible. Donc vous voyez ici que la souffrance, c'est le salaire du péché. Alors, Spinoza, il va reprendre évidemment le texte de la Genèse, il va montrer que la lecture qu'on en fait est fausse. Il n'y a pas de faute d'Adam, il n'y a pas de châtiment divin. Et son raisonnement enchaîne trois étapes. Alors, le texte, il se trouve, page 2, colonne de droite, de la ligne, il va de la ligne 36, il est très, très ramassé, hein, très concis. Il va de la ligne 36 à la ligne 55, mais on va le regarder. Je vous en résume les étapes, d'abord, pour présenter le texte. D'abord, il montre que il est impossible qu'Adam ait désobéi à Dieu en mangeant du fruit. C'est ce qu'il va montrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désobéissance, mais ignorance. C'est ce qu'il montre surtout dans le deuxième point, dans la deuxième étape. S'il a mangé de ce fruit, ce n'est pas par désobéissance, mais par ignorance. Troisième et dernière étape, c'est l'ignorance d'Adam qui explique l'interprétation qu'il donne de la révélation de Dieu après avoir mangé du fruit, en faisant de cette révélation une interdiction assortie d'une menace. C'est Adam qui imagine que Dieu l'a puni. Alors qu'il n'y a pas de punition. Alors qu'il n'y a pas d'interdit. Donc vous voyez que ce que va montrer Spinoza, c'est l'interprétation que fait Adam des vérités éternelles de Dieu en termes de commandement, qui fait effectivement que Adam a le sentiment d'avoir été châtié. Mais ici, cette interprétation est la conséquence nécessaire de son ignorance. Donc, reprenons les choses de plus près. Premièrement, donc ligne 36. Donc, vous allez voir, d'abord, que Spinoza montre qu'il ne peut pas y avoir eu d'interdiction divine et de désobéissance d'Adam. Et comment procède-t-il ? Par un raisonnement par l'absurde. Il procède par un raisonnement par l'absurde. Donc voilà, je vous lis le passage. Si donc, par exemple, Dieu a dit à Adam, « Je ne veux pas que tu manges le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. » Il impliquerait contradiction qu'Adam pût en manger et il serait par suite impossible qu'Adam en mangeât. Commentaire. Donc si Dieu avait vraiment dit cela, s'il avait vraiment interdit à Adam de manger du fruit, il aurait été impossible qu'Adam en mange. Cette interdiction, enfin, cette négation, hein, « je ne veux pas », cette interdiction traduirait en langage anthropomorphique, fait par les dieux, hein, elle traduirait en langage anthropomorphique un rapport de nécessité. C'est-à-dire que cette interdiction signifierait que Dieu fait connaître à Adam que l'ingestion du fruit a pour conséquence nécessaire un empoisonnement. Et donc, si Adam connaissait cette loi, ben, il ne mangerait pas du fruit, car comme tout être, il vise à assurer sa propre conservation. Manger du fruit, qui est un poison, serait contradictoire avec sa propre nature. Donc Dieu n'a pas prononcé une interdiction. Ou alors, si c'était le cas, ben, il aurait été impossible qu'Adam, ici, lui désobéisse. Il n'est pas suicidaire, Adam. Il cherche à se conserver. Bon. Quand on lit d'ailleurs le texte de la Genèse de près, hein, chapitre 2, le récit qui est fait de l'histoire d'Adam ne présente aucunement l'énoncé divin qui accompagne le don du jardin d'Éden comme celui d'une interdiction. Parce que si, je ne vais pas lire tout le texte, mais rappelez-vous un peu, Dieu fait le don à Adam du jardin d'Éden. Et il a sorti ce don d'une restriction. Hein, on va lire, je vais souligner le passage, comme ça ce sera plus simple. Juste avant la petite phrase que j'ai soulignée. Voici ce que dit Dieu. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'est la traduction la plus, je dirais, la plus fidèle au texte hébreu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est-à-dire que le texte énonce une restriction destinée à éveiller l'attention d'Adam. Mais il n'y a pas de formulation d'une interdiction. Dieu n'interdit pas à Adam de manger du fruit. Il l'avertit seulement de l'effet nocif du fruit. Et pericoloso sporgersi, je vais m'en dire. Nicht in Ausländen. C'était ce qu'il y avait dans les wagons autrefois. Bon, hein, on a bien compris. Achtung. Bon. Par contre, si vous lisez la traduction chrétienne qui est faite du texte, dans la Bible de Jérusalem, qui a été établie par les dominicains, il est écrit « Le jour où tu en mangeras, tu seras passible de mort. » Ah, une transformation. Là, il y a l'énoncé d'une interdiction, mais le texte hébreu ne dit pas ça. Donc, on peut le redire, hein, si Dieu n'interdit pas à Adam de manger le fruit, mais l'avertit seulement de sa nocivité, Adam est imprudent, mais il ne lui désobéit pas, il ne transgresse aucun commandement. Donc il n'est pas coupable. Il n'y a pas de péché. Mais, deuxième étape, comme le remarque Spinoza, l'Écriture raconte bien, hein, vous lisez la suite là, ligne 40, elle raconte bien que Dieu a interdit le fruit à Adam et que néanmoins, Adam en a mangé. Hein, c'est bien ce qui est écrit. Hein. Bon. Seulement, attention, c'est précisément après qu'Adam a mangé du fruit que l'Écriture le raconte, que l'Écriture parle d'interdiction. Pas au départ, pas au début. D'où la conséquence qu'en tire Spinoza. Alors là, on va expliquer, hein, c'est le passage un peu le plus compliqué, mais c'est en fait pas si compliqué que ça. Lignes 42 à 45, on devra dire nécessairement que Dieu a révélé à Adam le mal que serait pour lui la conséquence nécessaire de cette manducation, de cette ingestion, mais non la nécessité de la conséquence de ce mal. Alors, allons-y doucement. Je reviens un peu au texte de la Bible, de la Genèse. Si vous regardez un peu le scénario, vous voyez que, après que Dieu a dit à Adam, « Bon, tu peux manger des fruits, des arbres, sauf de celui-ci », entre en scène, bizarrement, le serpent. On ne sait pas d'où il vient. Et puis, le serpent qui discute avec la femme. Pas directement avec Adam. Et alors, il y a un dialogue entre le serpent et la femme, au cours duquel l'énoncé divin est transformé. C'est-à-dire que, enfin, vous allez voir, c'est très fin. Hein, le serpent arrive, en quelque sorte, à faire dire à Ève toute autre chose que ce que Dieu a réellement dit. C'est-à-dire qu'il suggère que Dieu n'est pas clair, qu'il est jaloux, qu'il veut préserver son pouvoir, et que, bon, et puis du coup, effectivement, Ève, enfin, on n'est pas encore appelé Ève, eh bien, oui, c'est vrai, et elle transforme l'énoncé, et on en arrive, au fond, au moment où Adam et Ève mangent du fruit, ils cèdent à la tentation. Mais alors, à ce moment-là, c'est là qu'on voit qu'il est question du verbe interdire. C'est là qu'on voit le verbe interdire utilisé, employé. Mais pas au départ. Quand Dieu parle, il n'interdit pas. Donc, vous voyez que si Adam a mangé du fruit, encore une fois, c'est par ignorance, non par désobéissance. Dieu, alors, si je reprends les termes ici que je viens de citer, Dieu a révélé que l'effet nocif du fruit et la conséquence nécessaire de sa manducation, la conséquence nécessaire de sa manducation, mais sans faire connaître la loi chimique qui explique que l'ingestion du fruit entraîne nécessairement un empoisonnement. C'est-à-dire qu'il a averti sur le risque d'empoisonnement, mais sans expliquer la loi qui fait que le fruit entraîne, l'ingestion du fruit entraîne nécessairement un empoisonnement, vous voyez ? Il a averti de l'effet, mais sans faire connaître la loi qui exprime le rapport nécessaire entre sa cause, entre la cause et l'effet. Donc, vous voyez qu'Adam est ignorant en ce qu'il ne connaît pas la nécessité de la conséquence. Qu'est-ce que c'est que la nécessité de la conséquence ? C'est la loi. C'est la loi chimique, en quelque sorte, qui explique que le fruit est un poison. Dieu ne l'a averti que d'un effet nocif, sans en faire connaître la cause. Vous noterez ici, d'ailleurs, au passage, tout de même, il faut le dire, que le mal dont il est question n'a aucun sens moral. Le mal dont il est question, ce n'est qu'un mal physique. C'est ce qui est mauvais pour Adam. C'est ce qui risque de lui faire du mal. C'est tout. Alors, troisième étape, comme Adam subit un effet nocif, donc un empoisonnement, sans en connaître la cause, c'est-à-dire sans connaître la loi qui explique que le fruit est un poison, sans connaître la nécessité de la connaissance, la nécessité de la conséquence, eh bien, il interprète cette loi, non pas comme une vérité éternelle et nécessaire, qui procède de la nécessité absolue de Dieu, mais il interprète ici cette loi comme une loi au sens d'un commandement, par lequel Dieu interdit de manger du fruit et punit ceux qui lui désobéissent. Vous voyez, c'est que Adam l'ignorant, qui ne connaît que des effets sans leur cause, se représente Dieu comme un prince qui châtie, qui punit ceux qui transgressent son commandement. Vous voyez que ce que Adam ne connaît pas, ce qu'il ne peut pas comprendre, eh bien, il ne peut pas s'empêcher de le moraliser. Il ne peut pas s'empêcher de projeter sur Dieu des intentions et d'interpréter ses malheurs, les malheurs qui l'accablent, comme une sanction divine. Mais en tout état de cause, il n'y a ni faute d'Adam, ni châtiment de Dieu. Il n'y a de faute et de châtiment que dans l'imagination d'Adam. Qui est ignorant et qui se représente Dieu de manière anthropomorphique comme un législateur qui sanctionne des actions humaines. Vous voyez l'explication ? Eh bien, ce même schéma d'explication, vous pouvez le reprendre pour les deux exemples qui suivent. C'est de la même manière qu'on peut expliquer la représentation que le peuple hébreu a de Dieu et l'interprétation qu'il fait du décalogue. Pas plus qu'Adam, les Hébreux ne sont capables de percevoir Dieu comme une vérité éternelle. Quant aux prophètes, n'allez pas croire qu'ils ont une connaissance qui les distingue des hommes auxquels ils s'adressent. Les prophètes sont tout aussi ignorants que les hommes auxquels ils s'adressent, hein, et auxquels ils transmettent leurs révélations. Hein. Les prophètes, eux non plus, ne connaissent pas la nature de Dieu. Et voyez ce que dit Spinoza, page 2, ligne 63 à 67. Important, ça. Ligne. Eh bien, ligne 63 à 67, je lis, ce que nous disons d'Adam et des Israélites, on doit le dire aussi de tous les prophètes qui ont écrit des lois au nom de Dieu. Ils n'ont pas perçu les décrets de Dieu adéquatement, comme on perçoit des vérités éternelles. C'est-à-dire que, contre ce que disait Maïmonide, hein, qui considérait Dieu, Moïse comme une sorte de prophète, législateur, philosophe, eh bien, les prophètes, tous les prophètes, y compris Moïse, eh bien, sont des ignorants. C'est-à-dire qu'Adam, les Hébreux, les prophètes, tous transforment imaginairement en commandement les vérités éternelles de Dieu. Tous, à l'exception du Christ. Mais là, je ne développerai pas parce que je n'ai pas le temps. Dont Spinoza a déjà évoqué le statut exceptionnel au premier chapitre. Alors, je résume très grossièrement. Pour Spinoza, le Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il n'a en lui aucune dimension surnaturelle. Mais c'est un sage qui connaît Dieu par la pensée et se rapporte à la loi divine comme à une vérité éternelle. Donc vous voyez, le Christ se démarque. Mais pour terminer, et j'en resterai là, je voudrais revenir sur la lecture par Spinoza du texte de la Genèse consacré à Adam, puisqu'il y revient en fin de chapitre, dans le cadre d'une question générale sur l'écriture sacrée. Cette question, c'est la suivante. Qu'enseigne l'écriture au sujet de la lumière naturelle, c'est-à-dire de la raison, et de la loi divine naturelle ? Alors là non plus, je n'aurai pas le temps de développer cette dernière partie, mais je voudrais simplement relever que pour Spinoza, l'histoire d'Adam s'accorde entièrement avec l'enseignement de la raison qu'il développe dans son éthique. À la lecture de l'histoire d'Adam, on peut en effet se demander, on ne peut pas s'empêcher de se demander d'ailleurs, en quoi le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un poison, parce que je vous rappelle que l'arbre dont le fruit est défendu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas n'importe quel arbre. Pourquoi Dieu, dans ce récit, avertit-il Adam de sa nocivité ? Et lui recommande-t-il de s'abstenir d'en manger ? C'est pas évoqué, ça, par les lectures traditionnelles. Eh bien, la réponse de Spinoza à ces questions est très prudente, car il ne prétend pas ici parler à la place du rédacteur du récit. Il n'est absolument pas certain que l'enseignement qu'il tire de ce récit soit conforme à l'intention du rédacteur. Et le rédacteur ne répond pas aux questions que je viens de poser. Toutefois, il est clair que la connaissance du bien et du mal est un poison. Elle empoisonne l'existence des hommes. en les maintenant dans des jugements, dans la culpabilité, dans les condamnations, au lieu de les ouvrir à une véritable compréhension des choses et des actions. Ainsi, Spinoza suggère-t-il, c'est page 3, lignes 7 à 11, il suggère une réponse. Et voici ce qu'il dit. Dieu commanda à Adam de faire et de chercher le bien pour cette raison qu'il est le bien, et non en tant qu'il est contraire au mal. C'est-à-dire de chercher le bien par amour du bien et non par crainte du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que penser en termes de bien et de mal, c'est faire le bien non parce que c'est le bien, non parce qu'on en comprend la nécessité, par la raison, mais par crainte d'être puni si on fait le mal. C'est-à-dire que la morale, qui est la connaissance du bien et du mal, ne joue que sur des ressorts passionnels. Elle s'adresse à des hommes en proie aux passions, à la servitude de la chair, comme disait Spinoza, incapables de se conduire selon la raison et d'agir vraiment librement, par eux-mêmes. Et donc, à la morale, Spinoza oppose la sagesse, distingue la sagesse de la morale. Il écrit une éthique, pas une morale. Pas la même chose. La sagesse, au contraire, c'est l'amour du bien pour lui-même, qui naît de la compréhension de sa nécessité. Le sage ne fait pas le bien parce qu'il craint le mal, il ne se rapporte pas au bien comme à un commandement extérieur auquel il faut obéir, sous peine d'un châtiment. Mais le problème, c'est que rien n'est plus rare que la sagesse. La béatitude est rare. C'est un état de plénitude difficile à atteindre. Aussi, malheureusement, la morale est-elle nécessaire? Car dans l'ordinaire de la vie, les hommes ne peuvent s'en passer pour régler leur coexistence. Et je terminerai par une très célèbre formule de Spinoza dans la quatrième partie de l'éthique. Voici ce qu'il écrit. Je crois que ça résume tout. Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal, aussi longtemps qu'ils seraient libres. C'est-à-dire que la sagesse est par-delà le bien et le mal, pour reprendre une célèbre formule de Friedrich Nietzsche. Voilà, je vous laisse. Merci. À vos questions. Oui.
Oui. Une remarque, effectivement, on ne peut pas bien comprendre comment Adam peut faire un péché s'il n'a pas déjà la connaissance du bien et du mal. Mais ce que je ne comprends pas, ça c'est juste un détail, ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce qu'on peut parler du bien sans parler du mal, sans le dire aux Spinoza.
Ah ben, parce que vous vous situez dans le cadre d'une dualité entre le bien et le mal. Mais si le bien est vraiment le bien, si je le comprends, parce que je le conçois le bien comme non pas s'opposant au mal, mais comme ce qui me paraît, comme ce qui est nécessaire, comme ce qui me permet d'accomplir mon désir. Donc ce n'est pas quelque chose que... le bien que je fais, si je comprends vraiment le bien, je ne le fais pas parce que c'est le contraire du mal. Je ne me situe pas dans cette dualité. Si je suis vraiment convaincu de la nécessité du bien, je ne suis pas dans cette dualité. Ne se situe dans cette dualité que celui qui a peur de tomber dans le mal. Et voilà, il y a toujours cette idée que le bien est menacé par la tentation du mal.
Nous entendons par le bien, le bien qu'on pourrait faire aux autres.
Le bien que l'on pourrait faire aux autres, que l'on fait nécessairement, si l'on est convaincu. Celui qui dit « c'est ce que je pourrais faire », c'est qu'une certaine façon, il est extérieur, il n'est pas convaincu, intimement, nécessairement. Et quand je fais le bien, je ne me sacrifie pas aux autres. C'est-à-dire que là aussi, Spinoza nous débarrasse de cette conception sacrificielle du bien qui consiste, au fond, à penser que lorsque je fais le bien, d'une certaine façon, je m'arrache à mon égoïsme. Le sage, d'une certaine façon, il épanouit son égoïsme. Celui qui est égoïste de manière sage, eh bien, il est généreux. Il a besoin de faire partager, effectivement, son bonheur aux autres. Vous voyez, c'est le bien est expansif. Il se communique. Si, par contre, je suis convaincu, si je suis travaillé par l'idée qu'il faut vraiment que je me dévoue aux autres, que je fasse du bien, en m'arrachant à mes inclinations, c'est que ce bien me paraît très extérieur. Bon, celui qui fait le bien, parce qu'il est convaincu de la nécessité du bien, il ne se sacrifie pas. Il y a toute une éthique, toute une conception. Évidemment, alors ça demande une transformation de soi. Ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est un travail.
Mais le bien et le mal, c'est une façon de s'adresser aux enfants, donc aux ignorants, en quelque sorte.
Oui.
Donc, c'est pour ça qu'Adam y est sensible.
Adam est ignorant, oui. Adam. C'est pas le pécheur, c'est l'ignorant. Nous sommes d'abord ignorants. Nous sommes tous Adam, au départ. Il ne pouvait pas faire autrement que d'interpréter les vérités éternelles de Dieu en termes de commandements, étant donné son ignorance. Voilà ce que Spinoza explique.
Et c'est comme ça qu'on s'adresse aux enfants. On leur dit toute fois à ça, tu vas
te brûler. Oui, d'une certaine façon, oui. Alors que la véritable autonomie consiste à comprendre que si on agit, en évitant de toucher la flamme, c'est parce qu'on a compris que cette flamme avait pour effet de nous détruire. Enfin, je veux dire qu'on établit des rapports de nécessité. Tandis que quand on ne fait que réagir à des sommations, quand on ne fait que se plier à des commandements, d'une certaine façon, on ne comprend pas ce qu'on vit.
Mais il est question d'une nature qui serait d'un Dieu, donc qui serait douée de perfection. Est-ce que la nature est vraiment parfaite?
Perfection, ça ne veut pas dire au sens. La perfection, c'est la réalité. Il n'y a pas d'autre chose que ce qui est. C'est pas. Spinoza ne parle pas de perfection en faisant une comparaison entre ce qui est parfait et puis ce qui ne le serait pas. Tout est parfait. Tout est parfait.
C'est presque Leibniz.
Non, parce que chez Leibniz, il y a tout de même un choix de Dieu qui choisit le meilleur des mondes possibles. Donc il y a un choix. Est-ce que pour Spinoza, il n'y a que de la nécessité.
Mais est-ce que dans une nécessité absolue, est-ce que l'avenir ne serait pas d'ores et déjà écrit?
Ah non, ce n'est pas de la fatalité.
Fatalité ou...
Non, ce qui est nécessaire, ce produit nécessaire, comment dirais-je, tout ce qui se produit nécessairement selon des lois, mais ça ne veut pas dire que nous soyons tous le jouet d'un destin qui, d'une certaine façon, est écrit par avance.
Ce que raconte Spinoza, ça s'oppose à l'explication du mal, comme quoi Dieu a fait l'homme libre et que le mal existe parce que l'homme est libre.
Voilà, ça c'est la conception traditionnelle. C'est-à-dire que la liberté de l'homme s'affirme d'abord par le pouvoir de faire le mal, c'est-à-dire de désobéir à Dieu. Ça, c'est la conception traditionnelle. C'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image en le dotant justement du libre arbitre. C'est-à-dire qu'il dispose de ce pouvoir qui consiste à s'écarter de la loi divine. Et il s'affirme par ce pouvoir de négation. Voilà. Et donc, c'est ainsi que se trouve présentée, en quelque sorte, l'histoire du premier homme. Mais alors, on lui prête beaucoup à ce premier homme, puisque, d'une certaine façon, il dispose déjà d'un pouvoir d'initiative, d'un pouvoir de choix, qui, de manière très bizarre, l'arrache à la plénitude dont il jouissait. Parce qu'au fond, si on regarde bien l'histoire du Jardin d'Éden, au départ, l'homme est heureux, pleinement heureux, rien ne lui manque, il est heureux. Comment comprendre que cet être s'arrache à cette plénitude pour produire son malheur? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Hein, comment expliquer que sa liberté soit le moyen, finalement, d'entrer dans sa déchéance, s'il est vraiment parfait, s'il est vraiment heureux, s'il est vraiment dans la plénitude? Vous voyez, il y a une difficulté. Il y a d'autres textes, Spinoza, là-dessus.
La perfection n'existe pas.
Dans la conception traditionnelle, il y a quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire que... Parce que, tout de même, l'état... La vie au Jardin d'Éden est vécue comme un état de plénitude. Hein? Donc, comment expliquer qu'il y a... décision de rompre avec ça, par la liberté? Ouais, c'est quelque chose qui est difficile à saisir. Oui ?
Par rapport à cette remarque, Freud faisait la même remarque en disant qu'il y avait quand même un mystère. Pourquoi est-ce que l'homme heureux, par exemple, peut faire un choix qui est catastrophique pour lui et pour Freud ?
Oui.
Donc, pour résoudre ce mystère, parce qu'il a inventé la pulsion de mort.
Oui. C'est un avatar du péché originel. Mais non, on est bien d'accord. C'est-à-dire que toutes les théories du libre-arbitre qui se raccrochent à ça parlent de mystère, en un sens. C'est inexplicable. Spinoza se refuse à ce genre de considération. La conduite de Spinoza... la conduite d'Adam est parfaitement explicable par son ignorance. Tout s'explique. Tandis que dans toutes les théories du péché, du libre-arbitre, la pulsion de mort, il y a, qu'on le veuille ou non, la référence à un principe irrationnel. Ouais, il y a une différence. Ça mérite d'être travaillé. Mais c'est vrai.
Et Ève, là-dedans...
Ève... Alors, dans le texte, Adam et Ève, il faut bien souligner, ou alors là, on ne peut pas prendre ça au pied de la lettre. Ève, c'est la partie. Adam et Ève ne sont pas comme deux personnages extérieurs totalement l'un à l'autre, si on peut dire. Mais c'est vrai que quand on regarde le texte, chapitre 2, c'est assez remarquable. C'est que Ève, elle est la médiatrice entre le serpent et Adam. Vous voyez ? C'est elle qui, en quelque sorte, incite Adam à pécher. Mais le vrai tentateur, c'est le serpent, tout de même. Il succombe à la tentation, Adam et Ève. Mais bon... Évidemment, on peut. Il ne s'agit pas d'en tirer une sorte d'interprétation misogyne qui est souvent utilisée. Voilà, bon, ça ce serait trop simple. Parce que c'est peut-être d'ailleurs un des textes les plus novateurs, la Genèse, parce que d'une certaine façon, si on regardait bien le chapitre 2, Ève est considérée comme un être humain à part entière, comme l'homme, ce qui n'était pas le cas de pas mal de mythes. Elle est considérée à égalité C'est bon, pour nous, ça va de soi, mais si vous voulez. Il n'y a pas de supériorité d'Adam sur Ève. Il n'y a pas de. Y a pas de ça n'existe pas. Bon, il faudrait regarder les textes de près. Il n'y a pas. Il n'y a rien de tel.
Il y a certaines traductions qui disent au lieu qu'elle soit tirée d'une côte d'Adam, mais d'un côté. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un des deux côtés d'Adam qui serait partagé en quelque sorte, qui serait
un je crois qu'il faut considérer que Adam et Ève sont deux symboles, plus que deux êtres.
Ah oui.
Voilà, c'est tout. Bon. Et que, d'une certaine façon, en chaque être humain, il y a Adam et Ève. Adam, c'est pas Adam, et Ève, c'est pas seulement Ève. C'est, voilà. C'est-à-dire que nous péchons à Adam et nous sommes tentés par Ève, en Ève. Si je peux dire, enfin, vous voyez, il faut une dualité, au fond. Adam et Ève expriment une dualité qui est en l'homme. Je dirais ça comme ça, moi, mais bon. Il faut aussi se rappeler que tous ces textes ils sont héritiers d'autres textes plus anciens encore. Par exemple, les Juifs avaient étaient longtemps exilés à Babylone. Ils ont été au contact de la civilisation babylonienne, de la légende de Gilgamesh, etc. Bon, et, vous voyez, le mal, au départ, c'était une puissance divine. Là, avec la Genèse, le mal n'est plus une puissance divine. Il est incarné par la figure du serpent. Et le serpent, c'est une créature. Ce n'est pas une puissance, c'est une créature. Une créature qui introduit effectivement la tentation, mais bon, il y a déjà un retravail par rapport à toute une culture.
C'est une tradition orale qui a dû évoluer.
Sans doute, oui. Mais moi, ce qui m'époustouffe, c'est l'ingéniosité du texte, extrêmement subtile.
Le texte de la Genèse. Et sa densité.
Tout à fait. Oui, oui. Oui, enfin, oui et non. Hein. On peut pas. Il impose sa nécessité, le texte même. Hein. Enfin, on ne peut pas en faire entièrement ce qu'on veut. Ce qui est certain, c'est qu'entre les deux chapitres 2 et 3 de la Genèse et le premier chapitre, qui est le récit de la création en 7 jours, il y a des différences énormes. Ils n'ont pas été écrits à la même date. Ils ont été regroupés, mais ils n'ont pas été écrits sans doute par le même rédacteur et à la même époque. Donc, vraiment un texte intéressant. Est-ce que y a d'autres questions ?
Tu ne tueras pas, c'est une loi divine naturelle ou la loi divine révélée ? C'est la loi divine révélée à Moïse, mais ça
oui.
Pourrait paraître une loi
divine naturelle. Révélée, ça veut dire surnaturelle. Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi.
Parce que vous nous avez dit que la loi divine révélée, celle de Moïse, c'était plus lié à un peuple.
Oui.
Mais tu ne tueras pas, c'est pas lié à un peuple.
C'est adressé aux Juifs, d'abord. Alors, même s'il y a un contenu universel, c'est inséparable d'une adaptation à un peuple, vous voyez. C'est ce que montre dans Spinoza quand il réfléchit sur la prophétie, hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, les prophètes ont un enseignement moral universel, mais il est toujours, il est mêlé. Il est mêlé, finalement, à une préoccupation politique. Vous voyez ?
D'une morale ou d'une éthique, le décalogue ? Je vois si la question est pertinente.
Mais... Ben, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est les deux. C'est-à-dire que tu ne tueras point, c'est un énoncé, effectivement, que nous considérant comme universel, mais dans sa formulation initiale, il n'est pas séparable de la formation d'un peuple qui doit se soumettre à des règles qui lui sont particulières. Vous voyez, l'universel et le particulier sont mêlés en quelque sorte. Alors évidemment, Spinoza voit dans le développement du christianisme, une évolution vers l'affirmation d'une universalité qui est détachable de l'enracinement dans un peuple particulier. Donc c'est vrai que les lois qui sont révélées aux prophètes sont des lois destinées à un peuple particulier. La loi de Moïse, c'est la loi faite pour le peuple juif. Voilà. Alors, il y a une tension, par contre, entre le caractère universel des prophéties, hein, qui énonce effectivement des exigences de justice et de charité qui ont un aspect universel, il y a une tension entre ça et puis l'application qui en est faite au peuple en particulier.
Mais le Christ, en fait, lui, on a fait une loi universelle.
Alors, il y a le Christ tel que l'entend Spinoza, n'a pas grand-chose à voir avec le christianisme. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Disons que ce n'est pas un prophète, il n'est pas... c'est un sage.
C'est un sage, mais qui serait menteur, puisqu'il se dit fils de Dieu.
Il n'est pas menteur. Non, il n'est pas menteur. Et je veux dire que là, tout ce qui est dit sur... par les évangiles sur la nature divine de Jésus, c'est de l'ordre du symbolique, si vous voulez, pour Spinoza.
Ben,
c'est ça qui retient.
Il demande à ses apôtres ce qu'ils en pensent. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Donc il n'a pas l'air d'en être très sûr.
Comme dit Spinoza, c'est la bouche de Dieu. Mais au sens où la vérité, cette vérité universelle que la philosophie découvre par la raison, eh bien, elle s'exprime, au fond, dans le Christ. Là, disons que ça, c'est... La question du Christ préoccupe beaucoup Spinoza. Mais pas dans le sens qui est celui du christianisme traditionnel. On va peut-être arrêter là. Merci.